French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. Moi c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Je suis ravie d'être derrière le micro pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Car cette semaine, nous mettons à l'honneur des histoires romantiques, des histoires d'amour, vos histoires d'amour. Aujourd'hui, c'est Pauline qui a accepté de nous raconter son histoire d'amour. Pauline, c'est une voyageuse dans l'âme. Après de nombreux voyages de quelques semaines, elle décide de se lancer dans quelque chose de plus grand. Un tour du monde. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'elle y rencontrerait l'amour après seulement quelques jours. C'est parti pour écouter la belle histoire de Pauline.
Bonjour Pauline, merci d'accepter de participer à cet épisode spécial Saint-Valentin.
Bonjour Charlotte, avec plaisir.
Je suis enchantée de t'avoir au micro aujourd'hui.
Bah écoute, moi aussi.
Alors dis-nous, d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui et quand est-ce que quelle heure est-il pour toi et que fais-tu dans la vie?
Alors là, je te parle de Bali en Indonésie. Il est 10h10 du matin, très exactement, et je suis ici en tant que nomade digitale.
D'accord. Et comment tu es arrivée à Bali? Je crois que c'est une longue histoire. Si tu te sens prête à nous la raconter, nous avons hâte de l'entendre.
C'est une très longue histoire, en effet. Oui, ça a commencé en 2016, un petit moment déjà, donc il y a 4 ans, où j'étais responsable de projet développement durable à cette époque-là en France.
Okay.
J'ai travaillé pour un département et voilà, j'adorais mon job. J'ai travaillé pendant 5 ans là-bas. Mais j'adorais aussi voyager et je partais tous les ans, seule.
Tu partais toute seule?
À l'époque, oui, je partais toute seule.
Ok. Et donc, tu as commencé à voyager assez jeune?
J'ai commencé à vraiment voyager quand j'avais 23 ans. Donc, en fait, quand j'ai commencé à avoir des sous, j'ai commencé à avoir des salaires, donc je pouvais me permettre de partir. Avant ça, j'étais partie beaucoup, mais dans des contextes un peu organisés. J'étais partie en Erasmus, notamment, dans des voyages ados, des choses comme ça, et en stage. Mais j'étais jamais partie toute seule vers l'inconnu, sans savoir ce qui m'attendait, sans avoir un contexte. C'était un petit peu organisé comme ça. Donc, c'était vraiment la première fois quand je suis partie seule. C'était au Costa Rica quand j'avais 23 ans. Et voilà, je commençais tout juste à travailler. Donc, j'avais réussi à mettre des sous de côté. Et voilà. Et en fait, l'idée, c'était pas de partir seule au départ. C'était plutôt de motiver les gens autour de moi à partir parce qu'en fait, je me suis rendu compte que plus j'en parlais, plus les gens me disaient « Ah, mais oui, moi aussi, j'ai envie de partir. On part quand? On fait ça quand? Etc. » Et puis, quand vient le moment de réserver les billets d'avion, il n'y a plus personne.
C'est vrai.
Voilà, il y a des choses de la vie qui font que il n'y a pas le temps ou il y a des...
Tous les moyens.
Il n'y a pas les moyens. Voilà, il y a toujours quelque chose qui bloque. Et finalement, moi, j'ai pris ce billet d'avion-là en me disant... un peu par provocation, en disant c'est pas grave, si vous venez pas, je partirai quand même. Et en me disant un peu en arrière-pensée, si je prends mon billet d'avion, ils vont peut-être être plus motivés pour venir et se dire, ça y est, c'est du concret, on y va, quoi.
Il y a bien quelqu'un qui partira avec moi.
Et voilà, exactement. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Et effectivement, jusqu'au dernier moment, il y avait quelques amis qui étaient vraiment motivés, mais qui ne pouvaient pas, principalement pour des raisons financières. Donc, j'ai laissé tomber l'idée de partir avec quelqu'un et je suis partie seule. Et voilà, c'est là que ça a démarré la vraie passion pour le voyage en solo.
Du coup, tu t'es retrouvée à partir au Costa Rica toute seule à 23 ans.
C'est ça. Wow. Donc, j'avais prévu de partir pendant 3 semaines, 1 mois là-bas. Et voilà, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Et maintenant, je remercie tous mes potes de pas être venus avec moi, en fait.
Oui, sur le moment, faut oser quand même. Hein. Mais par contre, ça a été une révélation pour toi. J'emploie un mot hyper fort, mais voilà, c'est là que tu t'es dit, ah ouais, le voyage, c'est toute ma vie.
C'est vraiment ça, parce que en fait, je pensais pas que j'en étais capable. Vraiment pas. Et en fait, quand on est dans l'avion et qu'on se dirige vers un endroit qu'on ne connaît pas, et puis moi j'étais déjà dans cet esprit-là de rien organiser, donc je savais pas vraiment où j'allais. Même la première nuit, je savais pas où je dormais. Voilà, j'ai pris l'aventure vraiment. Voilà, c'était vraiment l'aventure. Et donc j'avais vraiment envie de vivre ça au jour le jour et de laisser les choses venir à moi, plutôt que de tout organiser et de tout savoir à l'avance ce que j'allais faire. Donc, d'accord, ça s'est présenté comme ça. Et au final, ça a été une très, très belle aventure. Et ça reste maintenant un pays coup de cœur. Pas parce que c'est un pays formidable, mais pour moi, c'est le premier voyage en solo que j'ai fait. Donc, évidemment, il y a un petit côté émotionnel, quoi.
Il aura toujours une place importante parce que c'est, voilà, le premier voyage qui t'a amené à découvrir une plus grande passion encore par la suite.
Exactement, c'est exactement ça. Et donc du coup, voilà, ça m'a pas suffi évidemment, la passion à continuer
à la grandir.
C'est ça. Et donc voilà, tous les ans, en fait, j'avais la chance d'avoir énormément de vacances dans mon job précédent. J'avais 10 semaines de vacances. Alors tous mes amis me détestaient pour ça, parce que voilà, quand on compare les 5 semaines obligatoires aux 10 semaines que j'avais, forcément il y a un gap. Et du coup,
je connais bien ça. En tant qu'ancienne prof, je connais bien le trop de vacances.
Voilà, c'est ça. En tant que prof, tu connais même plus les réflexions.
C'est ça. Oh, pas forcément les réflexions, mais j'avais beaucoup de vacances, j'avais beaucoup de chance.
Et ouais, effectivement, c'est après voilà, il y a
beaucoup
de... pas de souci. Et du coup, enfin voilà, j'ai continué à voyager tous les ans, donc je pouvais me permettre de voyager pendant 2 mois et demi, quoi.
Pendant ces 2 mois et demi, c'est toujours des voyages non organisés, enfin dans le sens où tu partais sans réellement savoir ce que tu allais faire, sac à dos et puis tu pars. Le but est de découvrir du pays.
Exactement, c'était de découvrir moi-même, découvrir le pays, découvrir de quoi j'étais capable et puis avoir cette bouffée d'adrénaline en fait qui me permet de me sentir vivante. C'est ça que je recherchais principalement, de me sentir vivante. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'organisais très peu de choses et que je laissais les choses venir à moi. Donc à chaque fois, c'était pareil. Donc Costa Rica d'abord, ensuite je suis partie en Thaïlande, la même chose. Mexique 2 fois, c'était d'accord, pareil, et le Brésil. Donc ça, c'était tous les ans. Voilà, je faisais un gros voyage pendant 1 mois en général. Et ensuite, je faisais des petits voyages en Europe un peu de la même manière, mais peut-être plus avec des amis ou avec la famille.
D'accord, ok. Et donc, du coup, on arrive en donc 2016, premier voyage. Les années passent et ça nous amène à quelle année?
Alors, c'était même avant. Donc, 2016, en fait, c'est l'année où j'ai décidé que ça me suffisait plus de partir tous les ans.
D'accord.
Mais 2016, c'est l'année où j'ai décidé de démissionner de mon job et de partir.
Tu t'es dit, je pars en tour du monde.
Voilà, en fait, déjà depuis le début de cette passion pour le voyage en solo, j'avais pour idée de partir plus longtemps, mais évidemment, il faut mettre des sous de côté, ça se fait pas comme ça. Et puis il y a un peu de préparation, d'organisation pour comprendre comment ça fonctionne et comment ça peut se faire. Donc du coup, j'ai bien mis 3-4 ans à me préparer à ça, à mettre tous les mois assez de côté pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé et de partir assez longtemps, quoi.
C'est parce que du coup, de mettre de l'argent de côté pour être autonome pendant tout le tour du monde pour ce que tu avais prévu de faire, ou pour te poser à un endroit si jamais tu avais besoin, c'était plus pour avoir de quoi voir venir?
En fait, j'avais les deux idées en tête. Donc, c'est-à-dire que l'idée de base, c'était de faire un tour du monde. Mais ensuite, je n'excluais pas l'idée de m'installer quelque part si je trouvais un endroit dans lequel je me sens bien.
D'accord.
Voilà.
Donc vraiment tranquille, un voyage, un tour du monde où tu prends le temps de profiter de chaque pays, de chaque endroit que tu visites.
Exactement. J'avais prévu un tour du monde sur 2 ans. Au moins sur 2 ans.
Oui,
et après, peut-être un peu plus si je décidais, par exemple, de travailler à l'étranger, de m'expatrier quelque part. C'était un peu
D'accord.
ça que j'avais en tête, de trouver l'endroit parfait où j'avais envie de vivre, quoi.
C'est ce qui t'a amené, du coup, à quitter ton travail, à devenir digital nomade?
Alors, j'étais pas encore digital nomade à l'époque. En fait, je suis juste partie comme ça en me disant, si je trouve un boulot sur place, pourquoi pas? Mais j'avais pas encore ce business en ligne que j'ai maintenant. Donc voilà, j'étais vraiment juste dans l'idée voyage. Et si une opportunité se présente sur le voyage, eh ben, je m'arrête et je travaille un peu, soit pour renflouer les caisses simplement, soit pour vraiment m'installer dans un pays.
Ok. Et alors du coup, est-ce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse le métier de digital nomade. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus mais rapidement si t'as pas envie de t'étendre dessus?
Pas de souci.
Sur tes fonctions.
Digital nomade, digital nomade, ça peut vraiment vouloir dire plein de choses. Le principe de base, c'est de travailler en ligne et de pouvoir travailler de n'importe où. Donc en fait, on n'a pas vraiment de base. On peut travailler, voilà, à partir du moment où on a un ordinateur portable et une connexion internet, on peut travailler de n'importe où dans le monde. Donc l'idée, c'est vraiment ça. On n'a pas vraiment de base. Enfin, certains en ont une, d'autres non. Moi, personnellement, j'ai pas de maison. Donc je travaille d'un peu partout, je change d'endroit tous les mois ou tous les 2 mois. Là par exemple, ça fait deux mois et demi presque que je suis à Bali parce que j'ai beaucoup de travail qui arrive, mais parfois il y en a pas et du coup je peux me permettre de voyager plus rapidement.
D'accord. OK. Donc c'est en fait tu prends des missions sur pour un temps donné et tu
c'est
fais
ça.
Tu montes des projets ou tu travailles. Du moment que tu as une connexion Internet, c'est le principal.
C'est ça. Donc, il y a des clients qui sont plus réguliers que d'autres. Donc, voilà, il faut gérer ça aussi. Moi, pour l'instant, je suis encore j'appelle ça une mini nomade digitale parce que j'ai démarré il y a 4 mois, vraiment de partir et de travailler seulement. Donc, voilà, les clients arrivent et puis de plus en plus, ça devient régulier. Donc voilà, j'imagine qu'au bout d'un certain temps, au bout de certaines années, on a des clients réguliers. Et du coup, on a des revenus réguliers. Mais pour l'instant, c'est pas encore mon cas. J'ai plutôt des projets ponctuels et voilà, qui commencent à devenir réguliers pour certains.
Donc, du coup, tu te décides à partir en tour du monde.
Voilà.
Et on est début 2016, c'est ça ?
On est en fin 2016, plutôt en octobre 2016, exactement.
Donc, octobre 2016, tu te décides à partir et tu pars où ? C'est quoi le premier pays ?
Première destination, je pars aux Philippines. Je pars à Manille.
D'accord.
J'atterris à Manille. Et voilà. Donc, l'idée, c'était de partir pendant 3 semaines, 1 mois, de voyager 3 semaines, 1 mois dans le pays avant de continuer à explorer l'Asie du Sud-Est. Avant ensuite de me diriger peut-être vers l'Océanie et l'Amérique du Sud. C'était un peu l'idée, enfin, le circuit un peu classique maintenant qu'on retrouve dans les tours du monde.
D'accord. Ah, je savais pas qu'il y avait des circuits un peu classiques en fait.
Ouais, disons que c'est le circuit un peu disons qui est plus simple à faire parce que ça suit une ligne géographique qui est logique en partant de l'Asie, ensuite Océanie, Amérique du Sud et puis c'est des pays qui sont où c'est assez simple de voyager, enfin Amérique du Sud peut-être un peu moins, mais en tout cas en Asie du Sud-Est et Océanie c'est très facile de voyager. Donc du coup il y a beaucoup de voyageurs qui considèrent ce circuit-là comme un circuit classique. On retrouve beaucoup moins des destinations africaines par exemple dans des tours du monde malheureusement.
Ah oui, c'est vrai que en fait c'est ça, un tour du monde n'englobe pas forcément l'Afrique.
Ouais, très rarement, très rarement.
Il y a très peu.
Ouais.
Très rarement.
Ça commence
D'accord.
à se démocratiser, mais voilà, c'est un peu plus cher que l'Asie, par exemple, un peu plus compliqué mm-hmm. de se déplacer. Du coup, voilà.
Oui, puis d'avoir des visas.
Exactement. Donc voilà, beaucoup délaissent ce continent-là et puis se dirigent plutôt directement vers l'Asie pour aller jusqu'en Amérique du Sud, voire Amérique du Nord, parfois, avant de revenir en Europe ou l'inverse.
Donc, du coup, tu te décides à partir pour les Philippines et toute seule. Cette fois, voilà, ton tour du monde, il sera toute
seule. Voilà, ça, c'était décidé depuis le départ. Je partirai seule. Il n'était pas question pour moi de partir avec d'autres personnes. J'avais vraiment envie de vivre cette aventure pour moi et pour moi toute seule. Et voilà, c'était peut-être un peu égoïste, mais c'est aussi comme ça que j'aimais voyager. Donc voilà, j'ai préparé ça dans mon coin et je suis partie donc seule aux Philippines d'abord. Mais voilà, je suis pas restée très longtemps toute seule.
Eh oui, on arrive au cœur de la fameuse histoire, de cette belle histoire de Saint-Valentin que tu vas nous raconter, justement, on a hâte.
Alors,
et donc, du coup, t'arrives aux Philippines toute seule, mais... suspense.
Donc j'arrive aux Philippines à Manille exactement et je suis logée en couchsurfing par une Vietnamienne qui m'accueille dans son petit appartement voilà dans un quartier de Manille.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le couchsurfing, pour ceux qui ne connaîtraient pas?
Oui, donc le couchsurfing, le principe, c'est d'aller loger gratuitement chez des locaux qui vivent, voilà, à travers le monde. En échange, il n'y a pas vraiment d'échange, en fait, d'échange obligatoire, c'est juste que ces personnes-là aiment bien soit parler ta langue, soit découvrir ta culture, soit juste cuisiner, par exemple, un plat typique que tu as chez toi, ou juste des personnes qui aiment partager leur propre culture et qui t'invite heureusement à prendre un bout de canapé ou un bout de matelas pour échanger. Et c'est vraiment sur le principe de l'échange, en fait, et l'échange sans argent.
Donc tu atterris chez cette jeune femme,
c'est ça,
qui t'accueille.
Donc voilà, j'atterris chez elle et puis je découvre que je ne suis pas seule à être en couchsurfing chez cette Vietnamienne. Il y a un Égyptien avec moi.
D'accord.
Donc voilà, je rencontre Imam. Voilà, qui loge aussi chez cette jeune femme, et voilà, on se découvre tous les trois, on discute, etc. Et puis voilà, en discutant, on se rend compte qu'on va faire à peu près le même parcours aux Philippines. Donc on se dit, bah pourquoi pas continuer à voyager un peu ensemble, quoi. Ça serait bête de juste se suivre et puis voilà, de pas être ensemble. Donc
De se retrouver à des endroits où dormir, mais de pas partager ce beau voyage.
Exactement. Donc l'idée c'était ça, en fait. On a pas mal accroché ensemble et on s'est dit, bon bah je pense que ça va fonctionner, le voyage ensemble à deux, donc pourquoi pas continuer ensemble. Donc on est resté à Manille pendant 2 jours et ensuite on s'est décidé à prendre un bus et à continuer le voyage.
Ok.
Voilà.
Donc le voyage continue.
Donc voilà, on continue à voyager, on parcourt à peu près toutes les Philippines et puis voilà, il y a eu un moment.
Donc du coup toujours ensemble.
Oui, toujours ensemble. Au début, je t'avouerai que j'avais prévu plutôt de voyager quelques jours avec quelqu'un, mais je me voyais pas vivre les 3 semaines, 1 mois de voyage avec une personne en particulier, quoi. J'avais vraiment envie de rencontrer plein de personnes, oui, et puis de pas me bloquer à être avec quelqu'un, quoi. Et au final, ça a été complètement différent de ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire que on se complémentait très bien en voyage, on se comprenait rapidement, et puis voilà, on s'entendait juste très bien. Donc on se disait, mais pourquoi on se séparerait, on vit très bien le voyage ensemble, donc autant continuer. Et donc voilà. D'accord. On a continué, et puis au bout d'un moment on a fait face à la réalité qui était que c'était quand même plus qu'un co-voyageur et qu'on s'entendait plus que si on était simplement des amis, quoi.
Ah, d'accord. Plus et si affinité.
Voilà, exactement. Donc voilà, je pense qu'au bout d'une semaine, 10 jours, on s'est parlé à cœur ouvert en se disant que voilà, on ressentait des choses l'un pour l'autre et que voilà, c'était inutile de se le cacher et de se voiler la face, c'était comme ça. Donc voilà, on a continué le voyage. La deuxième partie du voyage était un peu différente parce qu'on était plus un couple du coup déjà.
Donc apprendre à se connaître, mais encore différemment, c'est encore autre chose.
C'était complètement différent. Et puis du coup, en voyage, les choses se Les choses se démultiplient beaucoup parce que on vit 24 heures sur 24 avec la personne et on voit la personne sous toutes ses formes, c'est-à-dire quand on est stressé, quand on a
toutes ses coutures.
Exactement, c'est un vrai révélateur, je trouve, le voyage de la personnalité de quelqu'un. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a accroché rapidement parce qu'on voyait que même en voyage, on s'entendait très bien. Donc ça voulait dire beaucoup de choses en fait.
Et oui, que vous arriviez à vous entendre malgré les hauts, les bas, de trouver un endroit où dormir, de trouver de quoi manger.
Exactement, exactement. On est stressé assez facilement quand on voyage. Voilà, c'est pas des vacances où on va dans un resort 5 étoiles et on se dort la pilule au bord de la piscine. Tu vois, c'est un voyage complètement différent. On bouge tous les jours, voire tous les 2 jours on est forcément soumis au stress, donc voilà, c'est un vrai révélateur comme je disais, et on a vite compris que nos deux personnalités fonctionnaient plutôt bien en voyage.
Donc ça matchait bien ensemble.
Ça matchait plutôt bien. Donc on a continué à voyager, mais le hic c'était que pour lui c'était un voyage courte durée puisque il avait un travail en Égypte. Lui était pas en voyage longue durée du tout. C'était juste des un voyage sur trois semaines. Donc voilà, il y a eu un moment donné où il fallait qu'il reparte, quoi. Donc il est reparti fin octobre, début novembre. Donc 3 semaines après qu'on se soit rencontrés. Et voilà, ça a été compliqué à gérer parce qu'on savait pas ce qu'il allait advenir de notre relation en étant loin, moi en continuant mon tour du monde, enfin voilà, ce qui était censé être un tour du monde en tout cas.
Bien sûr.
Donc voilà, se poser la question de si on allait continuer ou pas. Mais voilà, on a essayé d'éviter cette question-là pendant un certain temps. Donc il est reparti en Égypte, moi j'ai continué à faire mon tour du monde ou en tout cas tour d'Asie. Pendant 4 mois.
Ah oui, vous êtes resté en contact pendant ces quatre mois de tour du monde.
Après qu'il soit parti, j'ai continué à voyager et tous les jours, on était au téléphone ensemble. Donc vraiment, j'avais pas l'impression de voyager toute seule du tout. J'étais dans un autre mood qui était tous les jours en fait, on s'appelle, on se dit ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as vu, même sur le fait en fait, j'étais devant. Un monument ou un beau paysage, ce que j'avais envie de faire, c'était de prendre mon téléphone et de lui montrer, quoi. Donc, c'était vraiment un voyage différent et voilà, on sentait que la relation évoluait, mais que à distance, ça commençait à devenir compliqué à partir de...
C'était
pesant, exactement, parce que on était dans un mood complètement différent. Lui, et puis moi, en train de voyager.
Voilà, même s'il devait être content pour toi, c'est dur d'entendre la personne profiter, raconter des belles choses, et toi, t'es au travail. Et puis en plus, vous deviez vous manquer l'un et l'autre.
C'est surtout ça, ouais. C'était compliqué de gérer la distance. Et en fait, moi, je me rendais compte que plus les mois avançaient, moins j'étais dans un mood voyage. J'étais plus dans l'idée... il me manquait énormément, j'arrêtais pas de penser à lui, etc. Donc j'étais plus dans le voyage en fait. J'avais plus vraiment l'envie d'aller vers les autres. J'étais même moi avant de le rencontrer, j'étais un aimant à Jean. Je te jure que quand on voyage seul, c'est assez impressionnant parce que toutes les personnes viennent vers toi sans que tu le demandes. Vraiment impressionnant parce que le fait que tu sois seul, en fait, les gens viennent plus facilement vers toi. Il n'y a pas la pression d'un groupe, par exemple, ou quand t'es en couple, c'est moins.
Tu dégages quelque chose.
Exactement. Tu dégages juste le fait d'avoir envie de rencontrer des gens. Et du coup, voilà, les gens qui voyagent seuls ou même d'autres personnes qui voyagent en groupe viennent facilement vers toi. Et en fait, je me suis rendu compte après qu'il soit parti que moi, j'avais plus cette aura-là. D'amener les gens vers moi. Donc je rencontrais beaucoup moins de personnes et j'avais même plus très envie en fait de parler à des gens, je rencontrais énormément de personnes malgré tout, mais tu vois, j'avais plus envie de raconter la même chose à différentes personnes.
C'est ça, il y a quelque part c'est ton aura, c'est le bon mot en fait, qui a changé entre le moment où tu l'as rencontré et le moment où vous avez vécu 4-5 mois loin l'un de l'autre. Tu n'avais plus spécialement envie d'aller vers les autres. plus besoin.
Exactement. En fait, j'avais que lui en tête et du coup, ça éventait tous les autres. Ouais. Et je rencontrais quand même beaucoup de personnes. Enfin, je suis un peu, j'exagère beaucoup de ce que je dis là, mais c'est juste l'idée que, voilà, j'avais plus de moments seuls, qu'avant. Et du coup, j'avais cette impression-là que je gâchais un peu le voyage et que j'étais plus dans l'esprit premier que j'avais, qui était de rencontrer plein de gens, d'aller vers les autres, de découvrir les cultures, etc. C'était plus ça ce que j'avais en tête. Donc je me suis dit, à un moment donné, ça va plus, quoi. C'est pas de ça dont j'ai envie. Et en fait, continuer à voyager sans lui, je vois plus l'intérêt, parce que j'ai envie qu'il voit tout ce que j'ai envie de voir. Et je trouve ça dommage de continuer mon voyage en solo, un peu égoïste, en continuant comme ça, tout en sachant que lui, son rêve, c'est aussi de voyager, et que si on décide un jour d'être sérieux dans cette relation-là et de continuer, eh ben tout ce que j'ai vu, on ira sûrement le revoir ensemble.
Oui, parce que c'est ça aussi le but du voyage, c'est de partager, de vivre des choses à deux aussi. C'est bien de le faire seul, mais à
en
deux,
fait, c'est complètement différent.
Comme quelque chose de
c'est complètement différent. Oui. En fait, moi, j'aime toujours le voyage en solo pour différentes raisons. Pour ça, en fait, pour être cet aimant à Jean, rencontrer plus de gens, la liberté, exactement, de pas être frustré de ne pas aller à tel endroit parce que l'autre personne n'en a pas envie, ou tu vois, ce genre de choses. Voyager en couple, effectivement, c'est différent parce qu'on partage des choses, et c'est un peu plus fort parce que on les partage sur du long terme, et c'est pas juste des personnes avec qui on partage un moment T, et ensuite on passe à une autre personne avec qui on passe un autre moment. Il y a une sorte de continuité quand on part en couple ou avec des amis ou en famille. Voilà, on se comprend parce qu'on a vécu les mêmes choses sur du long terme. Voilà, cela dit, je suis toujours une fan du voyage en solo et j'encourage toujours les personnes à partir parce que c'est une expérience de folie. Mais voilà, c'est juste différent. Donc l'idée, en fait, c'est juste mon état d'esprit à ce moment-là qui était plus dans cet esprit-là. Exactement, j'avais juste changé et j'avais envie de partager toutes ces choses avec cette personne-là en particulier. Donc du coup, j'étais en Thaïlande à cette époque-là quand j'ai commencé à réfléchir, et en fait je me disais, pourquoi pas m'arrêter dans un pays et lui dire de me rejoindre. Donc l'idée, c'était plutôt ça au départ.
Ah d'accord, au départ c'est cette idée-là, parce que du coup ton voyage devait continuer après la Thaïlande, tu devais partir vers quel pays?
Après la Thaïlande, je devais aller en Malaisie, puis Indonésie, et ensuite l'Océanie, où là ça allait changer beaucoup de choses parce que le décalage horaire était beaucoup trop important avec l'Égypte, et voilà, ça nous ferait, enfin voilà, quand les nuits pour moi, il ferait jour pour lui, et vice versa. Donc ça fait vraiment
Il y aurait peut-être une heure de battement, en fait.
C'est hyper dur à gérer. Donc c'est là, en fait, où je me suis dit, à partir du moment où je descends plus bas, je me rapproche de plus en plus de l'Océanie, où là, la relation risque de pas tenir, quoi.
Donc tu y pensais déjà, en fait.
Donc c'était vraiment compliqué à cette époque-là, à ce moment-là. Et donc en Thaïlande, je me disais, pourquoi pas m'arrêter de voyager pour trouver un job et lui dire de me rejoindre, parce que j'étais un peu dans le monde des bisounours à cette époque-là, et en me disant, bien sûr, il va trouver un job hyper facilement. Il était dans l'animation vidéo, donc je sais que c'est un domaine qui est assez recherché. Et en fait, lui, il était à fond aussi. Il se disait, ok, je vais commencer à chercher, etc. Et puis en fait, il se faisait refouler tout le temps parce que voilà, il y a de choses qui jouent, et voilà, enfin c'est pas facile en fait de s'expatrier ailleurs comme ça en se disant en 3 semaines je vais trouver un truc, quoi. Donc voilà, moi j'ai fait des entretiens de mon côté, j'ai même été prise dans un call center à Chiang Mai, un call center qui avait l'air super cool, avec plein de nationalités. Moi j'avais rencontré des personnes, en fait des Français qui travaillaient et qui m'avaient donné envie d'y aller. Donc j'ai fait des entretiens, ils m'ont pris, et en fait au moment de dire oui ou non, est-ce que j'accepte, ils m'ont dit que c'était un contrat d'un an. J'ai négocié un contrat de 6 mois au départ en me disant, 6 mois, ça devrait aller. Et en fait, en voyant que Imam y arrivait pas à trouver un job en Thaïlande, je me suis dit, c'est pas l'endroit, quoi. C'est pas le moment où...
C'est pas la meilleure solution, en fait. C'est
exactement.
Pas là où il faut
donc,
se poser.
Le destin a fait que, voilà, j'ai refusé cette offre d'emploi et je pense que c'était même mieux parce que travailler dans un call center, c'est pas le job de rêve non plus. Donc voilà, j'ai refusé et puis j'ai continué mon voyage. À cette époque-là, j'étais avec mon cousin qui passait 2 semaines avec moi. Et puis voilà, on discutait ensemble, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois arrêter le voyage, tout ça. Et puis lui m'encourageait plutôt à continuer le voyage. Voilà, il était plus dans l'esprit liberté, etc.
Ah oui ?
Et du coup, je me suis dit bon, est-ce que je dois l'écouter ? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui écoute les gens en général ? Voilà, quand je suis pas sûre de quelque chose, j'ai tendance à voilà, j'essaye d'écouter les conseils qui me viennent et d'en faire un mix et de voir ce qui en ressort, quoi. Et en fait, pour la première fois, j'ai décidé de voilà d'écouter mon cœur et de prendre un billet d'avion. Donc, j'étais en Thaïlande et j'ai pris un billet d'avion en partance de Kuala Lumpur parce que je savais que j'allais descendre en Malaisie pour le rejoindre en Égypte.
Waouh! T'as arrêté ton tour
voilà,
du monde pour le rejoindre en Égypte.
J'ai complètement arrêté. Ça a été une décision longue à prendre. Hein. Ça m'a pris quelques mois quand même de discussion avec lui aussi, de savoir si... si c'était quelque chose que je pouvais faire de le rejoindre en Égypte parce que la culture est quand même vachement différente.
Oui,
voilà,
parce
inviter une à la maison, c'est pas
et puis
c'est
de
qui se fait en général.
Voilà, et puis là c'était un autre contexte, c'est plus le voyage où il y a quand même le sentiment de liberté, c'est tu le rejoins dans son pays, chez lui, alors qu'il travaille. Donc faut t'adapter à une nouvelle vie aussi, sédentaire. Est-ce que vous êtes revenu dessus après par la suite sur ce passage dans votre vie ?
Alors,
qu'est-ce qu'il en dit ?
En fait,
il avait
énormément envie de me revoir et puis il comprenait que ça allait être compliqué en fait de partir en Asie comme ça allait prendre plus de temps et moi voyant que je continuais mon voyage, ça commençait à devenir un peu stressant quoi, plus ça allait, plus je m'éloignais. Donc pour moi aussi, c'était bon, plus on s'éloigne, plus notre relation est en danger. Donc on s'est dit de se retrouver du coup avant de partir. Évidemment, je lui ai demandé si c'était possible, si voilà, je pouvais être accueillie chez lui, ou est-ce que c'était plus respectueux de prendre un hôtel et puis de se voir de temps en temps. Et donc en fait non, il en a parlé à sa famille évidemment, qui lui a dit non, il y a pas de souci. En fait, il leur a pas dit tout de suite qu'on était ensemble. Il leur a dit que j'étais une coach surfeuse.
D'accord.
Et qu'on s'était bien entendu et que j'aimerais bien découvrir l'Égypte, quoi. J'étais pas du tout partie.
D'accord.
Alors parce que voilà, c'est pas socialement accepté d'avoir une fille qui arrive chez toi, pas en fait, petite amie, voilà.
Petite amie.
C'est pas accepté non plus d'avoir une petite amie avant le mariage. Donc on peut sortir ensemble.
D'accord.
Etc. Mais il n'y a pas d'intimité du tout. C'est quelque chose de très, c'est mm-hmm. plus, on est amis plus, mais pas plus, pas vraiment de plus, quoi. Donc c'est plutôt compliqué et puis pas du tout accepté. Donc l'idée au départ, c'était plus de dire bon voilà, moi je découvrirai sa famille, on verra comment ça se passe, et puis surtout je partais dans l'idée de rester 3 semaines, 1 mois, pas plus, juste le temps de comprendre où notre relation allait et si ça valait la peine de continuer ou pas, parce que enfin voilà, si ça valait pas la peine,
parce que là en fait il y avait comme un goût d'inachevé en fait avec
son
départ.
Exactement, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus, de bien plus à découvrir, à creuser, et en fait c'était frustrant de pas découvrir ce qu'il y avait derrière et de peut-être regretter toute ma vie en fait d'avoir continué mon voyage sans creuser plus et sans savoir que peut-être c'était l'homme de
sans
ma vie, enfin tu vois. Donc voilà, j'ai juste décidé d'y aller pour découvrir ça, si c'était l'homme de ma vie ou pas. Et si c'était pas le cas, et ben j'avais rien à perdre en fait. Je repartais juste à Kuala Lumpur et je continuais mon voyage comme il avait commencé.
Et puis une belle histoire
quand même,
parce qu'une
belle rencontre. De toute façon, sur une belle note et voilà, au moins pas de regrets. Et puis en fait. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça a été encore plus fort quand je suis allée en Égypte. Donc, je suis arrivée dans sa famille. Ils m'ont complètement acceptée. Je vivais, donc évidemment, on n'était pas dans la même chambre. Ça se fait pas du tout. Donc, moi, je dormais avec ses sœurs. Dans la chambre, il y avait deux lits. Elles sont deux. Elles m'ont donné un de leurs lits et elles ont dormi ensemble pendant tout le temps où je suis restée là-bas. Donc, adorable. Et ensuite, la famille, c'était fort, quoi. Elle a tout. La famille a vraiment essayé de m'aider, de m'intégrer, de m'apprendre la langue, de m'apprendre la culture, de me faire découvrir toutes sortes de choses, la nourriture spécialement parce que voilà, la maman était une cuisinière hors pair. Du coup, voilà, ça avançait doucement. J'étais juste une coach surfeuse un peu de passage au démarrage. Sauf que je suis venue qu'avec un aller simple. Donc, au bout d'un moment, après une semaine, je pense que le papa d'Imam a commencé à lui poser des questions en lui disant, t'es sûr que c'est juste une coach surfeuse? Ce serait pas un peu plus que ça, etc. Et donc, Imam a décidé de leur parler ouvertement et de leur dire, bah, effectivement, c'est un peu plus et voilà, j'aimerais qu'elle reste plus longtemps, quoi. Donc là, on est passé à une relation un peu plus officielle, où là, la famille savait que j'étais là pour lui et que j'étais pas là pour découvrir la culture égyptienne, même si c'était une belle partie. Mais voilà, c'était plus pour lui, quoi. Ouais.
À ce moment-là, ta famille, comment elle le vit, le fait que tu arrêtes ton tour du monde et que tu partes en Égypte?
Ma famille, elle a toujours été très très ouverte et m'a toujours donné énormément de confiance. Et du coup, en fait, ils m'ont dit, si c'est ce que t'as envie de faire, vas-y, enfin, n'hésite pas. Et voilà.
Beaucoup de soutien de la part de
leur part et ils m'ont jamais empêché de faire quoi que ce soit. Ils m'ont jamais vraiment jugé de faire les choix que j'avais envie de faire et donc voilà, ça a toujours été sans problème avec eux et eux, ils voyaient peut-être ça aussi d'une manière. Je suis un peu sur le retour vers l'Europe, donc pourquoi pas, quoi. Ça pourra me permettre de revenir les voir. Donc voilà, c'était peut-être aussi une opportunité de se revoir. Donc voilà, oui. plutôt un soutien de leur part. Et puis avec la famille d'Imam, ça continue à évoluer. Et puis au final, au bout de 3 semaines, 1 mois, là où normalement j'aurais dû repartir, je suis restée 4 ou 5 mois chez lui. Au final, donc ça vraiment, j'ai vraiment aimé. Et puis eux m'ont jamais, comment dire, ils m'ont jamais fait sentir comme une étrangère et je faisais vraiment partie de la famille.
Alors du coup,
donc 4 mois, ouais, 4-5 mois où Imam lui continuait à travailler, mais il cherchait un boulot à l'étranger. Il continuait à chercher un boulot à l'étranger parce que l'idée qu'on avait tous les deux, c'était quand même de pas rester dans la famille toute notre vie évidemment, et puis de prendre notre envol et puis d'avoir notre intimité à un moment donné. Donc voilà, l'idée c'était de partir et puis voilà, au début il cherchait un petit peu partout, il cherchait en Europe principalement parce que il y a cette idée là que quand on commence à voyager en Europe en étant égyptien, et ça aide sur son passeport. Parce qu'on a un visa un peu, on a un visa un peu haut de gamme en fait. Quand on a un visa européen sur son passeport égyptien, ça ouvre peut-être plus de portes ensuite pour d'autres pays. Donc c'est un peu, c'était un peu une opportunité qu'on aurait aimé avoir pour pouvoir voyager plus facilement ensuite. C'est vraiment pas facile de voyager quand on est égyptien avec un passeport égyptien. Les visas sont hyper difficiles à obtenir et c'est ce qui a bloqué d'ailleurs sa recherche de job en Europe, parce que voilà, il y a eu l'obstacle du visa à chaque fois. Donc il était il allait dans les secondes et troisièmes phases d'entretien avec certaines entreprises, sauf qu'au bout d'un moment ça bloquait toujours parce que voilà, soit ça faisait peur les questions de visa, soit ils y connaissaient rien, soit ils essayaient mais ça bloquait. Donc voilà, on s'est dit l'Europe c'est peut-être pas pour tout de suite, on va peut-être chercher ailleurs. Et quand on a commencé à réfléchir à où partir, la Malaisie est venue tout de suite parce que lui était parti 5 ans auparavant pour une compétition universitaire qui avait lieu à Kuala Lumpur. Et puis moi, quand avant d'arriver en Égypte, j'étais en Malaisie pendant 2 semaines et j'ai adoré ce pays. Et j'avais un peu cette impression que j'allais y revenir. Tu vois, j'avais déjà cette intuition que c'était pas la dernière fois que je voyais ce pays. Donc voilà, quand on a cherché un pays en commun où on aimerait bien s'expatrier, et ben tout de suite la Malaisie est arrivée en tête.
Et donc vous arrivez en Malaisie quelle année à peu près?
Bah oui,
pour nous resituer, parce que du coup
c'est ça, on a l'impression que ça a pris 10 ans tout ça, alors que non, ça a pris qu'un an, même pas, ça a pris moins d'un an, puisque donc moi je suis partie, alors pour refaire la chronologie, je suis partie en octobre 2016. Je suis arrivée en Égypte en février 2017. Je suis restée jusqu'en juin 2017 et en juillet 2017, on est parti s'expatrier en Malaisie.
Ah bah tu vois, j'avais l'impression qu'en c'était beaucoup moins long. Tu vois, c'était plutôt l'inverse pour moi. J'ai l'impression que t'avais vécu tout ça en un condensé de mois et que ça avait été hyper intense en fait.
En alors, fait, ça a dû être le cas quand j'ai réfléchi, je me dis waouh, mais j'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies en 9 mois, alors que bah ouais, effectivement, enfin ça s'est passé quand même assez rapidement parce que bon, on a eu la chance en fait de Imam a eu la chance de trouver un job assez rapidement en Malaisie. Dès qu'il a commencé à chercher, il a eu pas mal de pistes et parce que la et un pays est quand même vachement ouvert à la diversité et ça c'est cool. Et notamment aussi parce qu'ils ont, c'est le seul pays en Asie du Sud-Est, il me semble, à offrir un visa, enfin à faire entrer les étrangers pour 3 mois sans visa. Donc ça c'est vraiment vraiment bien.
Ah oui.
Et non, même pas besoin de visa, c'est juste un tampon et voilà, tu peux rester 3 mois. Donc c'est vraiment idéal parce qu'on s'est dit bon, même si on n'arrive pas à trouver un job avant de partir, on peut toujours y aller et puis on a 3 mois sur place pour trouver quoi. Donc c'était vraiment l'endroit idéal. Donc
c'est ça.
Par chance, Imam a quand même trouvé avant de partir. Donc il a trouvé une entreprise qui l'a accueilli en tant qu'animateur vidéo, motion graphic designer comme ils disent dans le jargon. Et voilà, et du coup il a eu son visa même avant de partir, donc un visa de travail pour la Malaisie avant de partir. Et moi j'avais essayé de chercher un job avant de partir, mais j'avais rien trouvé de vraiment intéressant à part un stage sous-payé dans une petite boîte française, mais je me suis dit bon, pourquoi pas juste sacrifier ce temps-là, voilà, pour commencer à me faire un réseau, commencer à connaître le pays et découvrir un peu, enfin comprendre comment ça marche pour trouver un vrai job. Donc on est parti comme ça, moi avec un visa touriste, enfin un visa touriste, juste un tampon, et lui avec un visa de travail. Donc sur place, j'ai continué, j'ai travaillé, j'ai fait ce stage-là pendant 3-4 mois. Et puis ensuite, Imam m'a dit « Ah, tu sais quoi, il y a une offre d'emploi qui vient de s'ouvrir dans mon entreprise, je pense que c'est ton profil. » Donc c'était pour être responsable relations publiques sur les réseaux sociaux. Et effectivement, c'est ce que je faisais déjà dans le stage que je faisais avant. J'avais pas vraiment d'expérience avant ce stage-là, mis à part mon blog que je gère moi-même et les réseaux sociaux à côté. Mais voilà, c'était mon expérience perso, pas vraiment pro, et malgré ça ils m'ont pris. Donc ça c'était vraiment une opportunité en or, c'est un peu une ambiance à l'américaine où ils donnent la chance à des personnes qui sont vraiment motivées plutôt que de regarder et de scruter les diplômes.
Voilà, j'allais dire, même si t'as pas le diplôme qui correspond absolument à ce job là on va voir ce que t'es capable, et puis bah tu fais l'affaire et bah
exactement,
tant mieux, et
exactement.
Sinon passer la suite,
donc,
c'est
pas grave. C'était vraiment
donc
une opportunité en or, et puis ça m'intéressait vraiment ce job. C'était pas, c'était pas un job alimentaire. Ce que je craignais vraiment, c'est ça en fait, c'est de trouver juste un job qui me permette de manger et puis qui m'intéresse pas vraiment. Donc c'était vraiment cool de trouver ça.
Oui, parce que si derrière tu peux pas remettre de l'argent de côté pour voyager ou que tu peux
exactement,
plus rien faire, c'est
exactement
dommage.
Ça. Donc ça nous permettait enfin d'avoir 2 salaires corrects qui nous permettent de profiter et puis de mettre effectivement de côté. Parce que dans l'idée, on adorait notre job, mais malgré tout, on avait tous les deux cette envie de continuer à voyager, et on avait un peu moi j'avais ce goût d'inachevé par rapport à ce tour du monde que j'avais pas continué. Et puis lui, pareil, oui. Parce qu'il avait pas beaucoup voyagé, il avait pas eu beaucoup d'opportunités de voyager, parce qu'encore une fois, avec son passeport, c'est pas quelque chose qui est vraiment possible. Donc du coup, il se disait que là, enfin, c'était possible, parce qu'en Malaisie, c'est plus facile d'obtenir des visas pour lui. Et on est déjà en Asie, donc voilà, c'est assez facile d'explorer aux alentours, quoi. On n'a pas besoin de faire 15 heures d'avion, juste en une heure, t'es dans un autre pays.
C'est ça.
Donc voilà, on se disait bon, c'est bien d'être là pendant 2 ans. Donc c'était l'idée, c'était 2 ans, c'était la durée de notre contrat dans cette entreprise là. Et en fait, on se disait bon, 2 ans, c'est long.
C'est
en
long
fait,
quand
c'est,
même.
C'est un peu la contrepartie de l'entreprise qui dit on vous donne votre chance. Mais en contrepartie, vous nous donnez aussi en échange, parce que on estime que pendant 1 an, on va vous former, on va vous apprendre un peu la culture de l'entreprise, comment ça marche en Malaisie, etc. Et puis la deuxième année, c'est un peu la deuxième, c'est l'année où tu rends à l'entreprise. D'accord. Où t'es vraiment productif et efficace. C'est vraiment une obligation pour eux. Toutes les entreprises D'accord. ne le font pas, mais dans celle-là, c'est 2 ans obligatoires. Si tu pars avant, tu vas devoir rembourser tes salaires manquants, quoi.
Ah, ils tiennent quand même les employés par.
Et ouais, donc c'est vraiment un truc que tu dois accepter quand tu pars. C'est-à-dire que c'est pas juste un truc où tu te dis je vais rester quelques mois et je vais repartir. Non, tu t'engages vraiment à rester un certain temps. Parce que sinon, financièrement, c'est pas viable.
Toi, tu étais en... Ah oui, donc du coup, comme tu es employé par cette boîte-là, ce n'est plus un visa, ce n'est
Exactement.
Plus juste un tampon de 3 mois.
C'est
là,
t'as
un visa maintenant.
C'est-à-dire qu'ils te disent, on vous fait rester 2 ans, ok, c'est long, mais en échange, vous avez un visa de travail de 2 ans. Ce que toutes les entreprises malaisiennes n'offrent pas, il y a beaucoup de travail au noir. Et du coup, enfin voilà, ils offrent un visa officiel qui te permet d'aller et venir comme tu veux en Malaisie et de pas être contrainte en fait de sortir tous les 3 mois pour revenir avec un nouveau visa, sachant que c'est de plus en plus strict avec le nouveau gouvernement, etc. Et que
D'accord.
du coup, voilà, ça peut être vraiment compliqué de faire ça. Tu peux le faire peut-être sur 9 mois, 1 an, mais après ils commencent à te regarder un peu bizarrement à la douane. Donc
avec Imam, vous vivez tous les deux en Malaisie, c'est vraiment votre.
Et oui.
Aussi la découverte
Exactement,
de la vie de couple réelle,
un peu,
d'être vraiment que tous les deux.
Comment dire, la révélation, enfin le soulagement, parce que bien que j'adorais vivre avec sa famille et qu'ils étaient adorables, il y a eu un moment où, voilà, on avait besoin de notre intimité, de notre vie privée, et puis de se découvrir vraiment l'un l'autre en tant que couple. Et ouais, ça a été vraiment ça l'objectif principal de partir à l'étranger, c'était de s'installer ensemble, de vivre ensemble, et puis de voir comment ça allait se passer, même si on savait déjà que ça allait bien se passer parce que on voyageait ensemble déjà, on vivait dans sa famille ensemble.
D'accord.
Et voilà, ça fonctionnait très bien, donc
ça
on prenait pas beaucoup de risques. Mais voilà, c'était quand même une autre vie. Et puis voilà, on a été ravis de vivre cette vie-là et d'avoir notre premier appartement, notre premier job à l'étranger ensemble. En plus, voilà, on travaillait ensemble, donc on était vraiment 24 sur 24 ensemble quasiment, même si on travaillait pas toujours dans le même bureau. Mais on a eu 6 mois quand même où on a travaillé. Juste à côté l'un de l'autre et voilà, ça s'est très bien passé, donc ça a annoncé des belles choses, quoi. Donc voilà, on a continué à travailler ensemble et puis à un moment, c'est quand même posé la question d'officialiser entre guillemets notre relation, parce que pour lui, venant d'une culture musulmane, c'était quand même assez compliqué de dire à ses amis, à sa famille qu'on vivait ensemble sans être mariés. Ça restait un problème, même si on était à l'étranger et qu'on était loin des critiques, etc. Imam, dans son fort intérieur, il commençait à se sentir un peu coupable, quoi. Et ouais, parce que c'est vraiment, vraiment une autre culture, quoi. Là-bas, on se tient pas la main si on n'est pas marié, tu vois. Ça, on va juste. Enfin, non, j'exagère un peu. On s'embrasse pas si on n'est pas marié. Ouais. Du coup, nous, on vit notre vie comme si on était marié depuis 10 ans, alors qu'on l'est pas. Et du coup, socialement parlant, c'est difficile. Du coup, aussi parce qu'il avait, cette idée-là depuis qu'il est petit, en fait, j'imagine, quand il rencontrera quelqu'un, bah il se mariera avec cette personne et puis tu vois ensuite tu peux continuer ta vie mais pas avant. Donc voilà, il a accepté que moi exactement.
Pas dans le sens inverse.
Donc il a quand même accepté pendant un long moment que moi j'étais vraiment différente et que limite le mariage c'était pas obligatoire, qu'on pouvait continuer à vivre comme ça et qu'il y avait pas de souci et que donc voilà, il y a eu un moment donné où on a réussi à trouver un juste milieu en se disant parce que le mariage, il en parlait quand même assez tôt. Moi, j'évinçais la question et voilà, je voulais même pas en entendre parler. Et puis au bout de moi, ouais, j'en avais pas vraiment envie, en fait. Voilà, je crois pas forcément au mariage. J'ai des parents divorcés en plus, donc tu vois, ça a pas cette symbolique qu'ils peuvent avoir en Égypte. C'est un peu, enfin, moi j'avais cette impression-là que c'était plus un bout de papier et un truc pour payer moins de taxes, tu vois. J'avais pas du tout l'idée romantique du mariage. D'accord. Et de tout ça. Donc voilà, si je pouvais repousser, bah je le faisais quoi. Mais cependant, je savais que c'était important pour lui. Voilà, je savais qu'à un moment donné, voilà, je céderais entre guillemets et qu'on irait se marier, mais j'essayais de repousser la date. Et voilà, il a très bien accepté ça. Donc au bout de, alors on a commencé à en parler début 2018. En se disant bon ok on peut commencer à préparer tranquillement à préparer les papiers surtout parce que c'est ça qui a été compliqué, on n'avait pas tout et ouais c'est très long sachant que on vient de deux pays différents et on est dans un autre pays enfin et ouais
il faut retrouver
très compliqué.
Pour trouver la trace
et
de tous les papiers.
Et puis surtout, il y a des papiers différents à fournir.
À la mission.
Que ce soit en France ou que ce soit en Égypte, c'est différent. Et en Malaisie, c'était encore un autre débat parce que là-bas, on peut pas se marier si on n'est pas tous les deux musulmans. Donc, là-bas, ils ont une interprétation très différente du Coran. Et voilà. Alors que ça pose pas de problème, normalement, d'être marié à une catholique ou même une juive. Mais en Malaisie, ils acceptent pas du tout ça. Donc, ça m'imposait, en fait, de me convertir et de suivre une espèce de formation sur 2-3 jours, pour m'expliquer ce que c'est l'islam et être sûre que je me marie, enfin, que je me convertis pas par intérêt. Pas parce que j'ai pas envie de me convertir ou quoi. Enfin, c'est pas une question de religion. C'était plus une question de, j'avais pas envie de me forcer à le faire pour me marier avec imam. Voilà, si je le fais un jour, ça sera parce que j'en ai vraiment envie et que je ressens le besoin. Mais à ce moment-là, je le ressentais pas du tout et je le ressens pas toujours pas. Donc voilà, j'ai juste dit non à ça et on s'est dit bon, est-ce que du coup on se marie en Égypte ou est-ce que on se marie en France parce qu'on avait toujours ces deux options-là. Et moi, j'étais plus confortable avec le fait de me marier en France. Voilà, c'est sûrement dans l'inconscient. Je me disais que voilà, ça serait plus simple ensuite pour les papiers, etc. Et en fait, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'il nous demandait il nous demandait un papier que l'imam pouvait absolument pas avoir. Donc voilà, il a fait toutes les ambassades, les consulats, il a appelé en Égypte, etc. Et non, en fait, il fallait qu'il revienne en Égypte pour le faire.
Pourquoi?
Alors je sais plus
absolument ce papier-là.
Mais c'était un papier qui disait que en fait qui traduisait les lois égyptiennes. Et en fait, ça devait être un papier officiel qui venait de l'ambassade d'Égypte ou du gouvernement égyptien qui disait par exemple, à quel âge tu peux te marier ou quelles sont les conditions du mariage, etc. Que ensuite j'allais devoir traduire en français et présenter à l'administration française. Et en fait, non, c'était impossible d'obtenir ce papier-là. Il y avait une autre option qui était de dire, si vous ne pouvez pas obtenir ce papier-là, vous demandez au gouvernement égyptien de vous fournir un papier qui dit que vous n'avez pas besoin de ce papier-là. Qui dit que que ce papier-là n'était pas disponible. D'accord. Et que avec un tampon officiel disant ça. C'était assez fou comme situation, il n'arrivait pas à l'obtenir. Donc donc c'était un peu râpé, c'était un peu bloqué, on pouvait pas aller plus loin avec les papiers pour le mariage en France. Donc on s'est dit bon, Dernière option, ça va être l'Égypte. On espère que ça va mieux se passer parce que c'est notre dernière option. Et finalement, ça a été compliqué aussi, mais ça a pu se faire. En fait, moi, j'ai obtenu mes papiers français qui m'autorisaient à me marier à l'étranger, qui m'autorisaient à me marier tout court. J'ai réussi à l'obtenir en 3 mois.
Je savais même pas qu'on avait besoin d'autorisation pour se marier, en fait.
Tous les cas, mais normalement, ça prend moins de temps quand t'es en France, j'imagine. Parce que t'es sur place. J'ai parti sur l'idée de se marier en Égypte et ça a été aussi un peu compliqué, mais ça a pu se faire plus facilement. J'ai obtenu moi mes papiers pour d'autorisation entre guillemets de me marier en 3 mois. Donc ça a été assez simple. Ça a demandé beaucoup de papiers, mais bon voilà, c'était juste du temps. Je les ai reçus à l'ambassade de Kuala Lumpur, à l'ambassade française de Kuala Lumpur, et ensuite on pouvait enfin aller en Égypte pour se marier.
Et du coup en Égypte, vous avez fait venir ta famille, parce que ta famille était déjà sur place, mais ta famille consiste au mariage. Ce qui a été compliqué,
c'est que j'avais mes papiers de mon côté pour me marier, mais on avait encore l'administration égyptienne à aller voir. En une semaine, on aura tout bouclé et puis on pourra partir, faire notre célébration et puis ensuite partir profiter, voyager un peu en Égypte pour notre lune de miel, tu vois. On était vraiment vraiment optimiste à cette époque-là. On s'est rendu compte qu'on avait pris 3 semaines de vacances pour y aller et c'était juste, on a mis 2 semaines et demie à faire tous les papiers. On a fait des allers-retours entre toutes les administrations possibles et inimaginables. Oh là là. Ça n'en finissait pas. Il y avait toujours un papier qui manquait, ils refusaient toujours un truc et du coup, ça a pris énormément de temps et puis on a... Et ouais, c'était compliqué jusqu'au dernier moment parce qu'on savait pas si on allait y arriver avant de repartir parce qu'on avait notre avion retour à Kuala Lumpur et puis on devait reprendre le travail, quoi. Ça a été compliqué et puis finalement, au bout de deux semaines et demie, on a enfin eu l'approbation et la signature et on était officiellement mariés. Donc on a pu faire une célébration, mais autant dire que c'était hyper rapide. Ça s'est organisé tout à la dernière minute et du coup malheureusement on n'a pas pu avoir ma famille parce que c'était jusqu'au dernier moment, on savait pas à quelle date on serait mariés, à quelle date on ferait la célébration. Malheureusement ils étaient pas là, mais voilà, on s'est dit que quand on retournera en France, on ferait une célébration avec eux et que on se rattraperait comme ça, quoi. Mais quand on serait plus posé, bien sûr, plus calme, voilà. et que tout ce stress serait derrière nous. Donc on s'est mariés en septembre 2018.
Donc vous êtes mariés
2018.
Quel mois, quelle année?
Et ouais, tu vois.
Donc déjà. Ça fait un peu plus d'un an. Ça fait un an et demi
ça
bientôt.
Ça passe super vite.
Ouais, ça passe vite, hein. Et du coup, vous êtes rentrée en Malaisie pour continuer à travailler. Exactement. Et cette envie de voyage, j'imagine, ne vous quittait pas.
On avait toujours cette idée en tête. La fin de notre contrat est arrivée assez rapidement parce que tous ces 2 ans à Kuala Lumpur, finalement, s'est passé hyper rapidement. On a continué à travailler avec cette idée en tête là de voyager. Donc on a essayé de mettre autant de côté que ce qu'on pouvait. Donc tous les mois notre objectif c'était ça. En fait, on voulait pas profiter de tous les restos, les cafés, etc. Toutes les activités à Kuala Lumpur. Nous, ce qu'on voulait c'était mettre autant qu'on pouvait de côté pour pouvoir partir après ces 2 ans et partir autant de temps que possible.
Mais j'imagine que dans un pays comme la Malaisie, il y a quand même beaucoup de choses à visiter. Exactement. Et que c'est pas si cher que ça par rapport à d'autres pays. Donc, bien sûr, les restos, les cafés,
exactement,
c'est un coût,
c'est
mais il y a beaucoup de choses à voir, de la nature,
c'est-à-dire
où tu ne payes pas.
On préfère mettre l'argent dans des activités de voyage plutôt que dans des activités comme des restos, effectivement, des cinémas, etc. Donc, nous, c'était vraiment ça. Notre état d'esprit à l'époque c'est grâce à ça, à cet état d'esprit là qu'on a réussi à mettre assez de côté. On travaillait aussi à côté en tant que freelance pour mettre vraiment autant encore plus pour qu'on soit prêt en 2 ans à partir.
Encore plus. Et alors du coup ça y est, vous êtes prêt, votre petit bas de laine on peut dire est prêt. Quel est le prochain pays?
Alors, quel est le prochain pays qui vous, parce que c'est un qui vous aide l'œil, qui était juste à côté de nous et qu'on s'était gardé au chaud pendant ces 2 ans-là parce qu'on avait envie de visiter ce pays-là sur du long terme, en fait. On avait vraiment pas envie de y aller à la va-vite et de juste y aller une semaine pendant nos vacances. On voulait vraiment découvrir la culture et découvrir tout ce qu'il y avait à voir. Enfin, pas tout, parce que c'est un pays énorme, mais au moins tout ce qu'on avait envie de voir pendant plusieurs mois, en fait.
Exactement. Est-ce qu'on peut vous décrire comme des slow travelers?
On n'aime pas voyager trop vite. Exactement. On le fait de temps en temps parce que soit parce qu'on est avec des amis ou de la famille et qu'on veut leur faire découvrir un max de choses en un temps limité, mais nous tous les deux, non, en général on aime bien s'arrêter, bah tu vois, 2 ans à Kuala Lumpur, même 2 ans et demi. Là ça fait 5 mois qu'on est en Indonésie, 4-5 mois. Donc oui, tu vois, on aime vraiment se poser, et puis aussi parce que maintenant on travaille en ligne, donc du coup on a aussi ce besoin-là, en fait, de s'arrêter dans un endroit où il y a une bonne connexion et voilà, où on se sent bien aussi, et puis d'être productif, quoi. Donc on mixe les deux maintenant, on mixe le travail et le voyage.
Et le plaisir. Et alors, quelles sont les belles destinations que vous avez découvertes?
Eh ben, tu vois,
les bons pays
on démarre
que vous avez pu visiter après votre mariage.
On a quitté notre job à Kuala Lumpur, c'était en octobre de l'année dernière. Donc, pour l'instant, on est allé donc on a commencé en fait par une partie malaisienne qu'on n'avait pas encore découvert, qui est Bornéo. Donc nous, on s'est dit, bon, ça serait quand même dommage d'avoir vécu 2 ans et demi en Malaisie sans découvrir la partie malaisienne de Bornéo. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait pendant 2 semaines. On est allé là-bas avant de partir en Indonésie, du coup. Donc on est resté, on est resté 2 semaines là-bas avant de partir en Indonésie, où là, on est en fait depuis mi-octobre. Depuis le 15 octobre 2019, on est en Indonésie, et donc voilà, on a parcouru le pays vraiment de l'extrême nord, qui est au kilomètre zéro. Donc on est allé sur l'île de Pulauwe, nord de Sumatra. On a descendu l'île tranquillement pendant 3 semaines.
D'accord.
Ensuite, on est allé sur l'île de Java. Donc là, pareil, on a parcouru l'île pendant 3 semaines. Et là, on est à Bali depuis trois ou quatre mois maintenant, mais on compte rester encore un mois supplémentaire.
Et quand vous voyagez, toujours sac à dos, couchsurfing, ou vous prenez des hébergements et vous louez?
Alors,
du...
Ça dépend de notre humeur, notre état d'esprit, aussi si on a du travail ou pas. Donc on a fait du couchsurfing une fois en Indonésie. Pour l'instant, on est resté 4 jours dans un hébergement où voilà, on a été super bien accueillis. Il y avait plein d'étrangers avec nous. On était vraiment ravis. Et le reste du temps, on a fait un mix de backpacking et de louer un appartement pour rester et travailler. Donc principalement Sumatra et Java, c'était du backpacking, et Bali, là on a quasiment pas bougé, on est resté 2 mois et demi au même endroit dans un appartement. Et effectivement, le scooter, c'est un moyen de transport hyper important ici en Indonésie, tout spécialement à Bali, parce qu'il y a quasiment pas de transport public, parce que tout le monde a un scooter, en fait. Donc ils ont diminué, pour 2 euros par jour, on a notre scooter, quoi. Donc voilà.
Et alors, pour la suite, donc vous prévoyez de rester encore un petit peu à Bali, et quelle
alors,
est le
coup,
prochain la prochaine
encore,
destination
pour être très honnête, parce qu'on a différents projets en cours, mais voilà, c'est pas encore certain, donc j'en parle pas encore, mais voilà, on reste encore un peu en Indonésie pendant quelques mois.
D'accord.
On n'exclut pas l'idée de repartir en Europe à un certain moment. Alors, je sais pas encore si ça sera sur du long terme ou sur du court terme. Mais moi, voilà, ça fait 1 an et demi que je suis pas rentrée chez moi. Donc, ça fait même quasiment 2 mois. Au mois de mai, ça fera 2 mois, 2 ans, pardon, 2 ans
oui,
que je suis pas rentrée. Donc, du coup, le manque commence à se faire sentir. Et voilà, exactement. Donc, j'ai envie de revoir ma famille. Après, la question se pose si on rentre plusieurs mois ou juste 1 mois. Et on repart ensuite en Asie.
Que du coup, ta famille n'a pas encore rencontré Imam, du
pendant
tout.
Que la première fois où j'étais en Égypte dans la famille d'Imam. Donc, elle est venue pendant 5 jours. Je l'ai forcée, elle dit « c'est maintenant ou jamais parce qu'on part à Kuala Lumpur, donc j'ai vraiment envie que tu rencontres la famille. » Donc, elle est venue, voilà, elle a pris du temps dans son agenda overbooké. Mm-hmm. Et elle a surmonté aussi sa peur de prendre l'avion et de prendre l'avion seule. C'était la première fois qu'elle le faisait. Et ma maman, voilà, c'était... Et voilà, elle est assez angoissée wow. de nature et voilà.
Bah, bravo à ta maman.
Qu'elle fasse ça, ça a vraiment été un cadeau. Donc voilà, elle est venue pendant 5 jours, on lui a fait découvrir tout, le Caire, toute la famille, etc., la culture égyptienne. Elle a adoré, elle est repartie en France, c'était un peu ma VRP auprès de ma famille en disant, voilà, elle racontait ce qui s'était passé en Égypte, combien la famille d'Imam était adorable et combien ça s'était bien passé. Du coup, voilà, elle a réussi à transmettre ça au reste de ma famille. Et ensuite, en fait, donc le reste de ma famille, il avait pas encore vu jusque-là. En 2018, donc en mai-juin 2018, on est reparti 2 semaines en France parce que ça me tenait quand même à cœur qu'ils se rencontrent avant qu'on se marie. Donc ça, c'était avant le mariage. Et donc, il a rencontré vraiment toute ma famille. À ce moment-là, il y avait la communion de ma nièce. Donc, il a pu rencontrer vraiment tous les cousins, les oncles, les tantes, etc. Donc, c'était l'occasion parfaite.
Ouais, super. C'est beau. Et du coup, vous pensez que cette rencontre, cette première rencontre dans les Philippines, c'est ça? Donc, cette première rencontre dans les Philippines, d'abord, c'est une super belle rencontre. C'est une très belle histoire que tu viens de nous raconter. Mais elle va vraiment jalonner toute
si,
votre vie. Tout le voyage
si
va faire partie de votre vie toujours.
En Europe, à un moment donné, on n'imagine pas vraiment rester dans un endroit fixe
oui,
pendant
un jour.
Longtemps. Donc, on imagine déjà peut-être acheter un van et puis parcourir l'Europe ou acheter une tiny house et voilà, et la bouger de temps en temps. Donc,
parce que on peut pas dire que vous
en fait,
soyez
c'est ça,
réellement
entre
nomade
les deux,
parce que vous
donc
bougez
là,
pas tous les jours.
C'est assez exceptionnel
vous êtes pas sédentaire non plus en fait.
Au même endroit. En fait, c'est juste qu'on a eu une belle opportunité, un appart qui était pas cher et puis très calme. Donc du coup, on peut travailler, être hyper productif. Mais voilà, ça s'arrête là dans 5 jours. Donc dans 5 jours, on repart et puis là, on reprend le nomadisme à fond parce qu'on changera d'endroit tous les 3-4 jours. Ou enfin, tu vois. Ça dépend vraiment de nos missions, mais voilà, ça sera notre vie pendant
D'accord.
un mois supplémentaire. Et puis ensuite, l'avenir nous dira où est-ce qu'on se trouvera. Pour l'instant, on n'en a pas idée nous-mêmes. On ne sait pas où on sera encore.
Ah voilà, soyez heureux et continuez à voyager. Et est-ce que tu as des lieux ou des endroits que tu souhaites faire découvrir plus particulièrement à nos auditeurs qu'on pourra rentrer dans notre Mapster? Et comme ça, les gens
tu veux dire
retrouver si jamais un jour ils viennent
si
dans ton coin,
des endroits précis,
ces beaux endroits à visiter.
Alors du coup, en fait, moi, je répertorie
oui,
tout,
ouais,
quasiment
pourquoi pas,
tout
oui.
sur mon blog qui s'appelle grainesdevoyageuse.fr. Donc là, vous allez trouver tous mes conseils de voyage, mes itinéraires, les hôtels, les restos, etc., tout ce qu'on a testé. Donc voilà, tout y est. Et puis tous les jours, je suis très très active sur Instagram.
Ah super.
Donc pareil, graines de voyageuse, tu me trouveras là-bas. Et en fait, voilà, tous les jours, je poste ce qu'on fait, les endroits qu'on découvre, les hôtels où on loge, etc. Donc voilà, il y a vraiment toutes les infos par là-bas, soit Instagram, soit sur le blog. Et je commence à faire des vidéos sur YouTube aussi pour faire découvrir les choses d'une manière différente.
Parce que moi, je te suis déjà sur Instagram. Je vais des fois regarder ton blog et génial pour les vidéos YouTube. Super. Eh ben vraiment, merci pour cette belle
interview
et on vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde.
Toi, Charlotte, pour l'interview et puis à bientôt.
Merci, à bientôt. Et oui, c'est déjà fini. C'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster, cherchez notre compte French Expat, le podcast, tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités un peu partout dans le monde. Merci infiniment à tous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, laissez-nous plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de nous aider.
Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn @FrenchExpatLePodcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet FrenchExpatPodcast.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.